Bien, bonjour et bienvenue à tous, une fois de plus. Donc, d'une semaine à l'autre, nous avons le plaisir et je dirais la chance de nous revoir parce que j'ai en quelque sorte appris à vivre un peu au jour le jour. Hein. Donc, nous avons vu ces dernières semaines que les théories qui ont prédominé jusqu'à présent concernant la formation du texte des entretiens, donc en chinois du le yu, ces théories la conçoivent comme un processus de transmission ou du moins comme un prolongement dans la continuité des paroles et de l'enseignement de Confucius grâce à la médiation des disciples directs, les tizi, ou indirects, les menren, ou comme un processus de stratification, ou pour employer ce mot horrible, ce processus d'incrémentation qui est lui aussi continu. J'emploie cet horrible mot pour essayer de traduire donc la désormais fameuse accretion theory, ce terme anglais que vous avez donc en bas du tableau et qui est désormais associé au couple Bruce et Tycho Brooks. Donc auteur de cet ouvrage qui a fait parler de lui, ne serait-ce que dans la controverse, à savoir donc The Original Analects, daté de 1998. Or, c'est précisément cette continuité, ce caractère continu, qui fait aujourd'hui l'objet principal des remises en cause de ceux que j'ai appelés les déconstructeurs. Donc par opposition aux destructeurs, mais aussi aux reconstructeurs. Nous avons donc ces déconstructeurs qui, en quelque sorte, opèrent en sens inverse, évidemment donc des destructeurs, par exemple de ceux qui ont marqué l'histoire chinoise du XXe siècle, notamment à partir du mouvement du 4 mai 1919, avec une sorte de paroxysme pendant la révolution culturelle. Ces déconstructeurs opèrent également donc en sens inverse des reconstructeurs que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui et qui opèrent essentiellement donc en vertu de motifs idéologiques. Alors ces déconstructeurs se trouvent être donc des historiens pour la plupart. Donc là, nous avons affaire à une tendance critique par excellence. Alors, je terminais la semaine dernière en évoquant le nom de celui qui fut mon maître en étude du corpus canonique chinois, le professeur Zhu Weizheng, dont vous avez le nom ici, donc du département d'histoire de l'université Fudan, que les Français connaissent comme l'université Aurore, hein, donc l'université Fudan de Shanghai. Le professeur Zhu Weizheng, qui dès 1986, c'est-à-dire il y a 25 ans, dans une Chine qui sortait à peine de la révolution culturelle, s'interrogeait sur la multitude de ce qu'il appelait les faux Confucius, multitude qui a fini par recouvrir le vrai Confucius. Et cela vous rappellera sans doute donc le questionnement repris tout récemment par cet autre historien, donc Li Ling, qui lui donc enseigne au département d'histoire de l'université de Pékin, à Peita, comme on dit en chinois. Donc, dans le même mouvement, Zhu Weizheng soulevait la question de savoir si le texte du Le Yu est bien la source fiable concernant donc le vrai Confucius, le Confucius historique. Et il se demandait également quels peuvent bien être le ou les véritables compilateurs du Le Yu. Alors certes, Zhu Weizheng n'était pas le premier à émettre des doutes concernant la Vulgate véhiculée par la tradition établie, mais il est sans doute le premier à les avoir exprimés haut et fort. Pour ceux d'entre vous qui le connaissent, c'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier de fort tempérament, comme le disent volontiers donc ses proches en milieu chinois. C'est quelqu'un qui Xihuan Chouma, c'est-à-dire qui aime donc vitupérer et donc s'en prendre assez violemment donc à ses adversaires. Donc c'est quelqu'un qui parle haut et fort. Donc je le rappelle, dans une Chine à peine sortie donc de la révolution culturelle. Alors cependant, il faut bien dire que d'autres érudits avant lui ont soumis le texte du Le Yu à un examen impitoyable, et on serait presque tenté de parler d'autopsie. Donc un examen à la loupe ou sous le microscope, si vous préférez. Et on pense notamment aux philologues japonais qui ont la réputation, dans les milieux sinologiques, d'être absolument redoutables de patience et de minutie. Ils sont capables de vous décortiquer donc un texte avec une minutie presque surhumaine. Alors, je mentionnais la dernière fois les noms des deux grands penseurs du Japon des XVIIe-XVIIIe siècles, qui ont été également les auteurs d'importants commentaires sur le Le Yu, donc en japonais Rongo, à savoir donc les deux noms que vous avez en tête du tableau, donc Ito Jinsai et Ogyu Sorai. Mais bien évidemment, la liste des exégètes japonais sur le Le Yu à l'ère moderne serait bien trop longue pour que je vous en donne le détail. Alors qu'il me suffise de citer les travaux publiés dans les années 1970 par, et vous avez donc le nom en haut du tableau, par Kaneto Mamoru, dont les méthodes et les techniques d'analyse se rapprochent assez souvent de quelque chose dont je m'en vais vous parler à l'instant, à savoir donc de la Formgeschichte allemande. Donc j'essaie de retrouver ma flèche ici. Oui, vous avez donc ce terme de Formgeschichte ici. Je fais ici référence un courant qui est en train de gagner du terrain, voire de s'imposer dans le domaine des études sur les textes chinois anciens et tout particulièrement donc le Yu qui nous intéresse. Alors, comme vous vous en souvenez peut-être, je rappelais la semaine dernière que dans ces questionnements, excusez-moi, dans ces questionnements sur la provenance et la composition du Lun Yu, le professeur Zhu Weizheng faisait remarquer qu'il n'y avait rien d'équivalent en Chine avant l'ère moderne aux recherches menées par les représentants de ce qu'on appelle donc en allemand la Religionsgeschichte, le terme ici. Donc, ce que nous appelons en français l'histoire des religions, et ces recherches menées également par les théologiens protestants allemands du XIXe siècle, dont vous avez deux noms parmi les plus connus, donc Albert Eichhorn, qui a vécu entre 1856 et 1926, et Hermann Gunkel, qui a vécu de 1862 à 1932. Alors, ces tenants de la Religionsgeschichte qui se confondaient très souvent donc avec des théologiens protestants ont appliqué au corpus textuel biblique des méthodes de lecture et d'analyse historique et critique telles que cette forme Geschichte dont je parlais à l'instant. Alors, ce terme désigne en gros une méthode de lecture critique du corpus biblique qui tend à y distinguer différentes formes ou structures littéraires ou ce qu'on pourrait appeler également différents genres, le mot genre étant ici utilisé pour traduire le mot allemand Gattung. Cette méthode tend donc à retracer donc les origines et le contexte premier, à savoir historique, culturel, voire sociologique, de ces différents genres. Cette notion de contexte est désignée en allemand par une expression devenue fameuse, le « Sitz im Leben », c'est-à-dire donc littéralement « l'assise dans la vie hein, » ou le fait donc de replacer donc un texte en situation vécue. Par exemple, hein, je prends un exemple assez simple et évident, un texte qui commence par une invocation à une divinité. Alors, en l'occurrence, dans le corpus biblique, ce sera plutôt en fait le Dieu unique. Donc, on pourra supposer qu'il s'agit donc d'un texte de prière et qui, pour être lu et compris dans son sens premier, devra être replacé donc dans son Setzemleben, c'est-à-dire donc en situation vécue, dans son contexte originel, et en l'occurrence donc un contexte qu'on peut supposer de nature culturelle ou religieuse. Alors, un autre exemple classique, souvent cité, c'est quand vous entendez donc un texte commencer par la formule « il était une fois », vous pouvez supposer que vous êtes là dans le domaine du conte, ou du conte de fées, ou même d'un récit de légende. Alors, Hermann Gunkel, parmi d'autres, a commencé par appliquer donc les méthodes de la Formgeschichte à la Bible hébraïque, ce qu'on appelle communément donc le corpus de l'Ancien Testament, en mettant l'accent sur ses possibles origines orales. Alors, d'autres ont suivi, comme ce nom que vous avez en bas du tableau, comme Rudolf Bultmann, qui a vécu entre 1884 et 1976, et qui, eux, donc, ont suivi en appliquant ces méthodes au corpus du Nouveau Testament, et donc aux évangiles, mais donc en déplaçant l'accent sur la théorie des genres littéraires. Donc, nous avons là, en fait, une méthode de lecture des textes qui se rapprocherait assez, en fait, des approches de type structuraliste qui se sont développées dans le monde occidental d'après-guerre, et notamment donc dans les années 1960 et 1970. Alors, je signale en passant, pour ceux d'entre vous qui ne lisent pas l'allemand, qu'il existe un ouvrage en français sur Hermann Gunkel. Il s'agit d'un ouvrage de Pierre Gibert, qui est jésuite et qui a été longtemps professeur d'exégèse de l'Ancien Testament. Alors, cet ouvrage est intitulé « Une théorie de la légende ». Le sous-titre, c'est « Hermann Gunkel et les légendes de la Bible ». Et ça a été publié chez Flammarion en 1979. Alors, je signale que Pierre Gibert est également l'auteur de nombreux livres, parmi lesquels un livre tout à fait intéressant, bien qu'il ait beaucoup moins de rapport avec ce qui nous préoccupe, à savoir donc l'invention de la Bible, 15e-18e siècle, qui est paru tout récemment en 2010 chez Gallimard. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, cette école de critique biblique allemande est éminemment représentée ici au Collège de France par mon collègue Thomas Römer, mais ce qui est encore plus intéressant pour nous, c'est qu'elle est également très présente dans les travaux d'une nouvelle génération de sinologues, dont beaucoup se trouvent, et je ne pense pas que ce soit un hasard, se trouvent être allemands ou d'origine allemande. Et donc, ses collègues enseignent et mènent leurs recherches dans des institutions universitaires, bien sûr en Allemagne, mais aussi un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, donc il y a les États-Unis qui ont drainé un certain nombre de nos collègues sinologues, et ces collègues se rallient donc en grand nombre aux méthodes que j'ai appelées déconstructionnistes, inspirées donc de cette école allemande de critique biblique. Alors, les plus radicaux d'entre eux se regroupent autour de la thèse dont j'ai déjà parlé et qu'ils nomment eux-mêmes la thèse révisionniste sur donc la datation de la compilation du Luan Yu. Alors, il s'agit d'une thèse déjà formulée en japonais par Kaneto Mamoru, dont je parlais tout à l'heure, dans les années 1970, puis en chinois par donc mon maître Zhu Weizheng dans les années 1980, ensuite reprise en anglais dans les années 1990 par le sinologue australien que je mentionnais également la dernière fois, John Makem. Alors, vous voyez que la thèse gagne de l'ampleur à mesure que l'on passe d'une décennie à l'autre et qu'elle passe également donc par diverses langues, ce qui me faisait parler donc la dernière fois d'une sorte de mondialisation des débats donc sur la datation du Luan Yu. Alors, cette thèse révisionniste, c'est celle selon laquelle le Luan Yu ne peut pas s'être constitué en livre. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par livre? Alors là, bien sûr, c'est une question qui est également au cœur du débat, mais on pourrait considérer qu'un livre, c'est fondamentalement une entité textuelle à peu près stabilisée. Donc, pour les révisionnistes, le Luan Yu ne peut pas s'être constitué donc en livre, ne peut pas s'être stabilisé en tant que texte avant le milieu du IIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire en gros aux alentours de 150 avant Jésus-Christ, ce qui correspond, je vous le rappelle, donc à, disons, la première partie de la dynastie Han, c'est-à-dire donc des Han occidentaux. Il s'agit donc de la période où les Han commencent à mettre en place un ordre socio-politique nouveau, à savoir donc celui d'un empire fortement centralisé. Alors ça, ça a son importance justement quand on met en regard donc le fait que le Luan Yu se serait constitué en livre, donc à l'époque même où les Han mettaient en place donc les structures de base donc d'un empire centralisé. Alors, je dois signaler que récemment s'est tenu à l'université, la fameuse université de Princeton aux États-Unis. Donc Princeton, une des grandes universités de la côte est américaine. Donc il s'est tenu un colloque au titre « On ne peut plus clair ». Ce colloque s'intitulait donc « The Luan Yu, a Western Han text ». Point d'interrogation, hein, c'est-à-dire donc le Luan Yu, est-ce un texte des Han, point d'interrogation. Alors, ce colloque était organisé par le professeur Martin Kern, que j'ai invité, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, Je l'ai invité il y a un an à venir faire deux conférences au Collège de France. Je n'ai malheureusement pas pu y assister moi-même pour des raisons que j'ai exposées en début de cette année de cours, mais vous trouverez donc les résumés de ces conférences dans la dernière lettre du Collège de France, en français. Hein, vous trouverez ces résumés en français. Alors, Martin Kern est allemand d'origine. Il a été formé donc à l'université de Köln, de Cologne, et il est actuellement donc professeur à cette université de Princeton, où il poursuit notamment des travaux sur le Shitting, c'est-à-dire donc le livre des Odes, qui fait partie actuellement du corpus canonique confucéen. Et ces travaux sont clairement inspirés par ces méthodes de la critique biblique dont je parlais à l'instant. Et il se trouve que bon nombre de participants à ce colloque de Princeton, donc, qui portait sur la question de savoir si le Lu est un texte des Han. Donc, un certain nombre de ces participants se trouvaient être dans des situations analogues, c'est-à-dire donc des Allemands d'origine, mais faisant leur carrière universitaire dans des pays anglophones. Et pour la plupart, partisans justement de cette fameuse approche déconstructionniste du Lu. Alors, John Makem, donc ce sinologue australien qui participait également à ce colloque, et rappelle que une preuve que le Lu n'existait pas à l'état de livre, ni même de proto-livre dans la période précédant immédiatement les Han, c'est la manière dont le mensus, c'est comme cela que on connaît cet ouvrage qui est désigné en chinois donc comme le Mengzi, c'est-à-dire donc le livre de Maître Meng, mensus étant une latinisation opérée par les jésuites au même titre donc que la latinisation de Confuzi, donc Maître Kong en Confucius. Donc pour Makem, on peut être frappé par le fait que Mensus ou Mengzi, Maître Meng, qui est censé être l'héritier spirituel de l'enseignement confucéen au IVe siècle avant Jésus-Christ, bien sûr, donc Mengzi cite sa référence, son maître Confucius. Donc, dans le corps du texte du Mensus ou du Mengzi, on trouve bien 28 citations au total qui commencent soit par la formule Krongzi Yue, c'est-à-dire donc Maître Krong dit, ou bien par Zhongni Yue. Zhongni, c'est une autre appellation donc de Confucius. Mais ce qui est tout à fait frappant dans ces 28 citations, c'est que seulement 8 d'entre elles se retrouvent plus ou moins et très grosso modo dans le Textus Receptus, c'est-à-dire donc le texte du Lu tel que nous le connaissons, tel qu'il nous a été transmis. Et parmi donc ces 8 citations qui ont l'air de ressembler à peu près à des passages du texte reçu du Leyu, une seule se présente verbatim, c'est-à-dire donc mot pour mot. Donc là, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a véritablement un quota de citations du Leyu qui est très faible. Alors, quant au Xunzi, alors autre prétendu héritier spirituel de Confucius, qui lui a vécu donc un peu plus tard, donc entre le 4e et le 3e siècle avant l'ère chrétienne, dans le texte tel que nous le connaissons du Xunzi, le Leyu n'est tout simplement pas cité une seule fois. Et dans les donc nombreux passages quand même qui font référence à Confucius, il n'y en a donc pas un seul qui se retrouve dans le textus receptus du Leyu. Alors, ceci atteste de, pour le moins, de la très grande fluidité dans laquelle se trouvaient encore les traces enregistrées par oral ou par écrit des propos de Confucius au IVe, IIIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire donc tout juste avant l'avènement des Han, hein, que l'on date en général donc de 206 avant Jésus-Christ. Alors, à propos de fluidité, on peut rappeler les propos pleins d'humour de l'historien Li Ling, que j'ai déjà cité et qui, je vous le rappelle, est l'auteur donc de cet ouvrage plutôt au titre plutôt provocateur, hein, donc Sangyago, hein, donc qui comparait dans son titre Confucius à un chien errant. Donc ce même Li Ling, qui par ailleurs est un très grand connaisseur de manuscrits et de textes anciens, affirme dans une publication récente que, alors je vous ai donné la formule de Li Ling, donc en chinois ici, donc « Zhangguo qin han de gu shu hao xiang qi ti », c'est-à-dire donc les livres ou les écrits donc des royaumes combattants de l'époque Qin, c'est-à-dire donc celle du premier empereur, et de l'époque Han, Hao Xiang Qi Ti, semble être à l'état gazeux. Sui Tang Gu Shu Hao Xiang Ye Ti, c'est-à-dire donc les ouvrages anciens des Sui et des Tang. Alors là, ça nous mène déjà aux environs des 7e, 9e siècles de l'ère chrétienne, sont encore, selon lui, à l'état liquide. Et son ilai de gu shu, ze shi gu ti, c'est-à-dire donc, ça n'est qu'à partir des sons, c'est-à-dire là, nous sommes déjà au 11e siècle de l'ère chrétienne, donc au début du deuxième millénaire de l'ère chrétienne, que selon Li Ling, les textes deviennent solides. Alors, même si Li Ling exagère peut-être un peu, on s'est aperçu que la fluidité ou l'absence de stabilité des textes tient non seulement aux raisons que l'on peut s'imaginer habituellement, c'est-à-dire donc perte des sources, disparition des sources, omission, erreur de copiste, etc. Mais cette fluidité, on s'aperçoit maintenant qu'elle est en réalité due à la structure même des textes, c'est-à-dire à leur mode de composition et aux conditions matérielles de leur mise par écrit. C'est-à-dire que là, en fait, on remonte d'un cran. Hein. On a toujours eu l'habitude supposer que les textes nous arrivent de manière fragmentaire, bon, du fait des problèmes de conservation donc de l'écrit. Mais là, en fait, nous sommes passés à la thèse selon laquelle donc les écrits se présentaient déjà à l'origine, hein, d'une manière qui nous apparaît à nous fragmentaire. Alors, une telle prise de conscience a été provoquée par deux facteurs qui opèrent aujourd'hui donc de manière concomitante. Alors, il y a d'abord la critique des textes qui, comme je viens de l'exposer, s'inspire désormais pour large part de ces fameuses méthodes appliquées au corpus biblique depuis donc le XIXe siècle en Europe. Alors, cette relecture critique des sources textuelles transmises est maintenant stimulée et confortée par, et c'est le deuxième facteur, par l'apport des textes manuscrits qui sont retrouvés grâce aux fouilles archéologiques pratiquées donc en Chine et ailleurs, d'ailleurs en Corée également, depuis quelques décennies. Alors, comme nous allons le voir, ce double facteur, c'est-à-dire donc de nouvelles techniques de lecture critique et l'apport donc des textes exhumés des tombes pour la plupart, donc ce double facteur nous oblige à changer radicalement notre manière de concevoir les textes qu'une tradition à dominante à la fois européenne et moderne nous a habitués à concevoir, hein, comme nous avons l'habitude de concevoir un texte comme un essai ou une pièce littéraire continue, hein, et due à un auteur unique ou du moins assignable à une école. Alors, cette conception du texte est complètement à revoir quand nous parlons donc des textes chinois anciens. Alors, ça n'est pas à dire que ce genre de texte tel que nous le concevons, c'est-à-dire comme une pièce continue due à un auteur, ne pouvait pas exister dans la Chine ancienne, mais il est à peu près probable que ça n'était pas la norme. Et que la norme, en fait, elle est plutôt, justement, dans ce que nous allons voir maintenant. Alors, on a vu que la terminologie chinoise traditionnelle, qui s'applique aux sources textuelles anciennes, prend pour unité de base non pas le livre, tel que nous le concevons nous ici et maintenant, mais le pian, c'est donc ce terme que vous avez donc en haut du tableau, dont je vous rappelle que le graphisme, surmonté donc du radical ou de la clé du bambou, le graphisme nous indique qu'il s'agissait vraisemblablement d'un faisceau donc de fiches de bambou. Alors, ce pian est composé donc toujours dans la terminologie traditionnelle de chang, qui sont eux constitués de phrases ou de groupements de phrases relativement courts. Donc un chang, ça peut être, alors pour faire référence à des textes que vous connaissez peut-être, ça peut être donc une section dans le yu. Vous en avez donc un exemple que nous avons déjà vu au bas de ce tableau. Il s'agit donc de la toute première section du premier pien, du le U. Ça peut être donc une section. Alors, les sections dans le U peuvent varier énormément. Ces sections peuvent aller de 5 caractères. Vous avez des sections qui comportent simplement 5 mots ou 5 caractères et qui peuvent aller jusqu'à une série de paragraphes. Ou ça peut être aussi, pour faire référence là aussi à quelque chose que vous connaissez, ce qu'on appelle une stance ou un verset dans le Laozi, ou le Tao Te Ching, donc le livre de la voix et de sa vertu ou de sa puissance. Alors, si on compare différentes sources textuelles, on s'aperçoit que certains zhang ou phrases ou même membres de phrases qui sont en quelque sorte des unités de base servant à constituer le texte dans son entier se retrouvent dans différentes sources et donc dans différents contextes où ces unités prennent des sens différents. Alors là, vous allez, je sens que vous perdez pied et nous allons donc immédiatement prendre un exemple concret que j'emprunte donc à l'exposé donc d'un de ses collègues d'origine allemande qui enseigne actuellement à l'université de Boulder, Colorado, à savoir donc Matthias Richter, qui a assisté à ce colloque dont je parlais tout à l'heure, ce colloque de Princeton, et qui nous fournit cet exemple. Si vous prenez donc la deuxième ligne de ce tableau, il s'agit donc d'une fameuse formule du Laozi, donc à la stance ou au verset 64, qui se lit de cette manière, donc Shen zhong ru shi, zhe wu bai shi. Alors, si vous avez donc entre crochets carrés une tentative donc de reconstitution de la prononciation de ces deux mots qui terminent donc l'unité le membre de phrase, donc quelque chose qui doit se prononcer comme siek et tiek. Et pour vous signaler l'effet de rime, parce que c'est ainsi que se construit la plus grande partie du Laozi, donc des membres de phrases très courts, donc qui sont la plupart du temps rimés. Alors, que peut vouloir dire donc cette phrase ou ces deux phrases? Si on est shen zhong ru shi, si on est attentif à la fin comme au début, on zhe wu bai shi, c'est-à-dire littéralement, il n'y aura pas d'action mise en échec. Autrement dit, si on prête attention à la fin comme on a prêté attention au début, on ne risque pas de connaître l'échec. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on retrouve la formule pratiquement à l'identique dans d'autres sources qui précèdent immédiatement l'avènement des Han ou qui sont d'époque Han. Vous avez par exemple ici le Shuoyuan, qui est une source d'époque Han, au chapitre 16, où vous retrouvez donc le premier membre de phrase, donc Shen zhong ru shi, combiné donc avec un deuxième membre de phrase, c'est-à-dire une deuxième fin de phrase, hein, qui se lit donc en chinois moderne « chang yi wei jie ». Et là aussi, donc, sont soulignés donc, entre crochets carrés les effets de rime. Autant donc, l'effet de rime est perdu en chinois moderne, autant on pourrait supposer que, donc, que dans la lecture de l'époque, hein, ces deux membres de phrase rimaient. Donc, cette phrase en entier voudrait dire donc être attentif à la fin comme au début. Il faut prendre donc ce principe comme chang yi wei jie, c'est-à-dire comme règle constante. Autrement dit, donc ici, vous avez un deuxième membre de phrase qui n'a plus grand-chose à voir donc avec ce qui précède dans le Laozi. Et de la même façon, donc, dans le Shangshu, hein, qui est également un des textes du corpus canonique confucéen, qu'on connaît plus familièrement sous le titre de Shujing, c'est-à-dire donc le livre canonique des documents historiques, vous avez une légère variante de ce premier membre de phrase, à savoir, donc là nous sommes à la quatrième ligne, donc Shen Zhong Yu Shi, c'est-à-dire donc il s'agirait d'exercer sur le début l'attention que l'on porte sur la fin. Alors vous me direz, ça revient à peu près au même, sauf que ça. Comment dire, vous avez une variante qui inverse un petit peu le propos. Et alors, quand on en vient donc la cinquième citation que vous avez sur le tableau, c'est-à-dire le Zuo Zhuan, hein, que l'on considère comme une source pré-Han, hein, vous avez donc cette formule, hein, où on reconnaît quelque chose de ressemblant mais qui n'est pas formulé exactement de la même façon, donc « shen shi er jing zhong, zhong yi bu kun », c'est-à-dire donc être attentif au début tout en gardant son respect pour la fin, c'est faire en sorte, je traduis très littéralement, hein, c'est faire en sorte que le chong, c'est-à-dire la fin, se passe sans difficulté, sans obstacle majeur. Je vous signale d'ailleurs au passage que ce mot chong, ça c'est pour ceux d'entre vous qui êtes un petit peu débutants en chinois, c'est le mot qui marque, par exemple, la fin d'un film. Quand vous arrivez à la fin d'un film, vous avez un film chinois, évidemment, et même japonais, vous avez ce mot zhong qui apparaît à la place du mot fin. Alors, je referme ma parenthèse. Donc, la dernière citation que vous avez donc sur le tableau provient donc du Li Ji, c'est-à-dire donc le traité des rites, hein, que l'on datait traditionnellement d'avant l'époque impériale, c'est-à-dire d'avant les Han, et qu'on a de plus en plus tendance justement à dater du début des Han. Alors, vous avez ici la formule Zi Yue, Shi Jun, Shen Shi er Jing Zhong. C'est-à-dire donc servir son prince, servir son jun, c'est-à-dire son souverain, c'est shen shi, c'est-à-dire c'est être attentif au début tout en gardant son respect pour la fin. Alors, vous voyez comment on évolue donc d'une citation à l'autre. C'est-à-dire qu'ici, dans la citation du traité des rites, cette fameuse formule, hein, de faire attention à la fin comme au début, ou au début comme à la fin, est réintégré donc dans un propos du maître, c'est-à-dire Confucius, puisque on fait précéder la formule de cette entrée en matière canonique, ziyue, c'est-à-dire le maître dit. Et d'autre part, la formule est également intégrée dans un nouveau contexte, puisque donc cette formule de sagesse générale qui apparaît dans le Laozi devient donc un précepte politique qui s'adresse donc aux serviteurs du prince. Donc quand on sert son prince, il s'agit donc de d'être attentif au début tout en donc gardant tout son respect pour la fin. Alors vous voyez comment donc cette maxime est recyclée, on pourrait dire, et réintégrée dans des contextes différents selon les sources. Et j'ai gardé ici en quelque sorte le meilleur pour la fin, c'est-à-dire donc la citation que vous avez tout en haut du tableau et qui provient donc du Lun Yu, des entretiens de Confucius dans la section, c'est-à-dire le Zhang numéro 9 du chapitre ou du Pian numéro 1. Vous avez donc un propos qui est attribué non pas au maître lui-même, mais à un de ses disciples considérés comme proches, à savoir le disciple Zheng Zi. Zheng Zi yue, Shen Zhong Zhui Yuan, Min De Gui Hou Yi. Alors, donc, le disciple maître Zheng, alors là vous voyez que ce disciple est un des rares que je signalais auparavant à à porter la désignation de maître dans le texte du Lun Yu. Alors, ça nous aurons, j'espère, l'occasion de revenir sur cette question. Mais toujours est-il que voyons un petit peu ce que signifie donc cette phrase. Alors, Shen Zhong, c'est-à-dire donc, selon certains commentateurs, cette phrase voudrait dire être attentif à Zhong, c'est-à-dire ici vous retrouvez le mot fin, mais dans le contexte qu'il faut justement ce fameux Zetzem Leben dont parlent les. Justement les tenants de la forme Geschichte allemande, il faut probablement replacer cette phrase dans le contexte de l'idéologie de la piété filiale dont le disciple Zheng Zi est censé être porteur. Quand vous dites Zheng Zi dans les sources anciennes, et plus encore dans les sources du début des Han, ça équivaut pratiquement à parler tout de suite de la piété filiale. Zheng Zi est dans le Lun Yu apparaît justement comme un modèle de piété filiale. Alors, si on remet donc cette phrase dans ce contexte de piété filiale, cette phrase voudrait dire donc être attentif à ceux qui ont fini, c'est-à-dire qui ont fini. Sous-entendu de vivre, c'est-à-dire donc être attentif à ceux qui sont morts, à nos défunts, et Zhui Yuan, qui veut dire littéralement poursuivre ce qui est au loin. Alors bon, traduit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si encore une fois on replace dans le contexte de la piété filiale et du culte aux ancêtres, ça voudrait dire donc être attentif aux défunts et poursuivre donc le culte aux lointains ancêtres. Alors, min de gui hou yi, c'est faire en sorte que la vertu du peuple revienne à littéralement sa densité première. C'est faire en sorte que le peuple donc revienne a une vertu donc consistante, en quelque sorte. Autrement dit, le message ici est à la fois donc moral et politique. Et d'ailleurs, c'est un message qui s'adresse probablement au souverain. Ça voudrait dire, donc, si vous, le souverain, vous pratiquez donc avec assiduité et respect donc le culte aux défunts et aux ancêtres, c'est un bon moyen justement pour faire en sorte que le peuple revienne de lui-même à la vertu. C'est-à-dire que vous montrez l'exemple de quelqu'un qui est respectueux des ancêtres, et donc vous serez suivi naturellement donc par le peuple. Donc là, vous voyez comment un dicton, un membre de phrase, une maxime de sagesse circule donc dans les textes, circule dans des sources différentes et se trouve réintégrée donc dans des contextes différents en prenant donc des sens différents. Et vous avez une même observation à faire, et j'arrive assez rapidement là-dessus. Donc, à propos donc de cette fameuse formule que vous retrouvez à plusieurs reprises dans le texte du LEU, donc des entretiens. Cette formule du Qiao Yan Ling Se, c'est une formule en quatre caractères, et comme certains d'entre vous qui faites du chinois le savez sans doute, ce format en quatre caractères est un format qui est privilégié dans ce qu'on appelle actuellement les Changyu, c'est-à-dire donc en fait les formules toutes faites qui ont valeur de proverbe ou de maxime. Et qui sont en général donc en quatre caractères. Alors, Qiao Yan Ling Se, c'est donc, ce sont des Qiao Yan, c'est-à-dire des paroles habiles, et Ling Se, c'est-à-dire un visage ou une figure engageante, séduisante, engageante. Donc, dans cette section 3 donc, du premier chapitre des entretiens, vous avez cette formule, donc paroles habiles et figures engageantes, xian yi ren, c'est-à-dire littéralement, sont rarement donc signes de véritable sens de l'humain. C'est-à-dire que on est tout miel, tout sourire, tout est dans les mots, et en réalité, il n'y a aucune consistance justement du sens du lien humain. Et alors cette formule, vous la retrouvez, je passe assez rapidement car l'heure avance. Vous la retrouvez donc au livre 5, donc section 25. Qiao Yan Ling Se Zu Gong, vous la retrouvez donc associée donc à un troisième élément. Vous avez donc les paroles habiles, la figure engageante et le Zu Gong, c'est-à-dire donc un respect littéralement uniquement de surface, c'est-à-dire donc qui n'est que dans le comportement extérieur. Donc vous retrouvez cette formule qui est présentée toujours de manière péjorative donc dans le contexte du Le Yu, et c'est ce qui est attesté par cet autre passage de la section 27 du livre 15 du Le Yu, Qiao Yan Luan De, c'est-à-dire donc les paroles habiles ne font que luan de, c'est-à-dire mettre du désordre dans la vertu, c'est-à-dire mettre la vertu donc en désordre. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette formule que l'on a présentée comme étant justement au cœur de l'enseignement de Confucius, c'est-à-dire une méfiance vis-à-vis donc de la rhétorique fleurie et une méfiance vis-à-vis donc de d'un comportement purement extérieur, plein, là aussi tout miel et tout sourire. Donc, en réalité, hein, on est presque un peu déçu de la retrouver telle qu'elle dans une multiplicité d'autres sources. Alors, vous retrouvez dans ces sources le Shangshu, donc le livre des documents dont je parlais tout à l'heure, le Yizhoushu, le Guanzi, le Shouyuan que j'ai déjà cité tout à l'heure, hein, tel quel. Hein. Bon, et vous la retrouvez également, hein, et vous l'avez ici sur cette ligne ici, dans le Shangjunshu, qui est un livre d'inspiration légiste. Autrement dit, là, nous n'avons absolument rien de confucéen en principe, hein, où il est question donc de Qiao Yan Xu Dao, hein, c'est-à-dire donc de paroles habiles et d'une voix creuse. Et dans un autre passage du même livre du prince Shang, donc Qiao Yan Bian Shuo, c'est-à-dire donc des paroles habiles et donc des discours sophistes. Autre source qui date de la période immédiatement pré-impériale, donc, ou même du début de la période impériale, le Lu Shi Chunqiu, où il est question de Qiao Yan Bian Ci. Donc, et là aussi, toujours, donc, il s'agit de cette rhétorique, hein, très, très fleurie, que devaient manier donc les conseillers du prince, mais dont il faut en même temps se méfier, parce que, comme nous le dit également notre La Fontaine nationale, il faut se méfier toujours des beaux discours des flatteurs. Et vous retrouvez, et j'en terminerai là-dessus pour aujourd'hui, une formule à peu près équivalente donc dans des manuscrits qui ont été exhumés des tombes, à savoir donc le Xing Ziming Chu et le Xing Qing Lun, où vous avez la formule Qiao Yan Li Ci, c'est-à-dire là aussi donc paroles habiles et donc propos, disons, favorables, hein, propos ou profitables plus exactement. Donc, j'ai voulu vous montrer, excusez-moi d'avoir terminé aussi rapidement, mais je voulais quand même vous montrer quelques exemples justement de cette technique qui consiste à composer des textes en recyclant donc des membres de phrases ou éventuellement des formules toutes faites et qui traverse, hein, différents donc contextes idéologiques, hein, ou différentes écoles. Autrement dit, là, ça nous apprend justement à éventuellement éviter de continuer à raisonner justement dans ces termes de compartimentage entre différentes écoles. Je pense que les textes anciens doivent être lus en fait dans une nouvelle perspective. La semaine prochaine, donc, nous en viendrons donc à aborder cette fameuse question donc du Sitzimleben, c'est-à-dire donc la manière dont il faut replacer donc la lecture du Lun Yu dans donc un contexte historique ou des situations donc vécues. Alors, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité en vous souhaitant bien évidemment une très bonne entrée dans le dragon, hein, puisque donc la semaine prochaine, si nous sommes encore ici, donc nous serons entrés dans cette année du dragon qui, je l'espère, sera un petit peu moins calamiteuse que le lapin. Merci.